Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Donc je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité d'écouter les podcasts sur les différentes plateformes de streaming audio. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo YouTube si vous êtes intéressé pour pouvoir vous abonner sur ces autres plateformes. C'est un peu plus pratique pour certains, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment et il n'y a que les plateformes disponibles en description. Voilà, je sais que certains parfois me posent la question pour d'autres plateformes. Je ne suis pas partout, veuillez m'en excuser. Principalement, restez sur YouTube, parce que c'est quand même là que ça m'intéresse le plus d'avoir de l'audience et surtout d'avoir vos retours, parce que vous allez voir que dans cette émission aujourd'hui, je vais pas mal m'appuyer sur vos commentaires dans l'espace communauté. Je mets souvent des posts avec des photos, je réagis un peu à l'actu et ça me permettra aujourd'hui d'analyser un peu avec vous, d'analyser vos réactions, voilà, autour des événements. Alors, cette semaine, enfin, la semaine dernière, ces derniers jours, quoi, récemment, comment va la boxe, c'est l'actu récente de la boxe. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans l'actu récente? Principalement, aujourd'hui, on va avoir aujourd'hui trois thématiques. Déjà, on va revenir sur un petit peu l'événement du week-end avec le combat entre Liam Smith et Chris Eubank Jr. On va revenir, j'ai envie de te dire bien évidemment, mais sur ce qui émoustille un petit peu les réseaux depuis quelques jours, et surtout les réseaux sport de combat, avec Francis Ngannou qui a quitté l'UFC et qui veut faire de la boxe anglaise. Et on a un boxeur en la présence de Tyson Fury qui a répondu à cet appel. Et donc, ça fait réagir pas mal. J'ai pas encore écouté la vidéo de Samir, de la barbarie française, cette chaîne YouTube que je vous recommande souvent, hein. Je le trouve très pertinent dans ses analyses, il connaît très bien son sujet, il a une manière très posée de discuter, c'est quelqu'un qui ne va pas être non plus à te descendre si tu n'es pas de son avis, mais qui va te donner le sien, sans forcément prendre des grands virages, des grandes esquives, des grands détours. Non, il va quand même à l'essentiel, il explique bien les choses. Récemment, j'ai écouté un podcast de lui où il parlait de ce clash entre Baki et Cédric Doumbé. Et je l'ai trouvé, encore une fois, très très pertinent, très intéressant. Surtout que moi, je suis ça un peu de loin. Mais pour le coup, vous voyez, ça m'intéresse et j'ai cliqué, ça m'a fait cliquer. Et donc, il a fait aussi son sujet sur Tyson Fury. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui écoutent ça sur YouTube. Donc, voilà les avantages aussi d'être sur YouTube. Revenons à nos moutons, on parlera en fin de cette vidéo du combat du week-end entre Arthur Beterbiev et Anthony Yard. Donc voilà, on finira avec ça. Donc c'est les trois thématiques de ce podcast. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai comme partenaire, Boxe Attitude a des partenaires, et comme partenaire, j'ai des personnes qui vous permettent d'avoir des stages de boxe à l'étranger. Et là, je vous annonce les dates du prochain stage en groupe à Cuba, qui aura lieu tout le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à contacter Glory si vous voulez participer, même si je pense que d'ici quelques jours, sûrement que ce sera bouclé, mais vous pouvez quand même vous renseigner pour savoir les dates des prochains stages, car d'ici peu de temps, on va vous annoncer un peu le programme de l'année, et il est fort possible qu'on ait des stages fixes qui arrivent dans l'année, et de toute façon, vous avez aussi la possibilité d'avoir des stages un peu à la carte, si jamais vous êtes un groupe de personnes, ou si vous êtes une personne très déterminée à faire un stage de boxe à l'étranger. Donc voilà, je vous rappelle que c'est pour tout niveau, que tu sois un débutant, que tu sois expérimenté, que tu sois un boxeur amateur ou que tu sois un boxeur professionnel, on peut s'adapter à tout niveau. Voilà, ceci étant dit, je me lance avec ce sujet. Il faut qu'on y aille, hein. Chris Eubank Jr. qui affrontait Liam Smith. Alors, petit rappel des faits, donc c'était en Angleterre, c'était samedi dernier, samedi soir. Chris Eubank Jr. était deuxième boxrec à ce moment-là, et Liam Smith... Je me souviens pas exactement de son classement, mais c'est sûr que là, en battant Chris Eubank Jr. comme il l'a fait, en le battant par KO au quatrième round, il a fait une remontada. Il est aujourd'hui deuxième box-rec de la catégorie des poids moyens. Lui qui vient pas de cette catégorie à la base. Hein. Lui, quand il affronte Canelo, c'était en super welter, hein, si je vous dis pas de bêtises. Hein. Ouais, il était encore en super welter quand il prend Sam Eggington en 2019. Et puis il va monter tardivement hein, chez les poids moyens pour affronter notamment Munguia. Non, il était redescendu en Super Welter, ouais, c'est ça. Il avait affronté Munguia en 2018, et c'était aussi en Super Welter, d'accord, d'accord. Vous voyez, bah, comme quoi j'avais zappé ça, je pensais que c'était déjà en poids moyen, mais non, Jam Munguia était encore à l'époque en Super Welter, c'est vrai. C'est quand même un gros, c'était quand même un gros Super Welter celui-là. Hein. Et donc il est monté, bah, il est monté pour l'occasion. Non, son dernier combat était déjà en poids moyen. Ok, donc il était classé en poids moyen en 2022. Ok, les gars. Bon, voilà, ça permet de resituer un peu. Et Chris Eubank Jr., lui, qui est un poids moyen naturel, donc il prend ce gros KO. Je vais lire un peu vos réactions avant de me permettre de vous donner vraiment ma réaction à ce combat-là. Alors. Donc j'ai mis un post, on voit le banc qui est au tapis, hein, une photo très impressionnante, vous la verrez sur la miniature hein, en ce moment même, c'est une photo très impressionnante, il est vraiment, il prend un gros KO, hein, y a rien à dire, il prend un très gros KO et il a aucune raison de repartir au combat, même si lui, sur les réseaux, a mis qu'il respectait bien sûr Liam Smith pour sa victoire, qu'il le félicitait pour sa victoire, mais que lui, il estimait qu'il aurait pu repartir. Non, il était vraiment, vraiment touché, et il a très, très bien fait. Alors, on va lire un peu vos réactions. Alors, je suis étonné, je ne pensais pas qu'il gagnerait ainsi, bravo à lui. Donc ça, c'est le premier commentaire. Ensuite, on me dit, je reste sur le cul, je ne le voyais pas gagnant, big félicitations à lui. Tiens, en voyant sur le cul, on dit beaucoup les gros mots, les vulgarités, en ce moment, c'est restreint sur YouTube. Et je m'étais beaucoup plaint que YouTube avait bloqué ma vidéo sur Jarmonta Davis. Et à vrai dire, j'ai changé le terme sur le titre. C'est Mani Boumaillé qui fait mes miniatures Box Attitude maintenant, donc sur la chaîne principale, qui m'a fait remarquer que c'était peut-être parce que je parlais de Jarmonta Davis. Et c'est exactement ça. J'ai changé sur la seconde vidéo le titre, si vous pouvez aller voir sur Box Attitude. Au lieu de mettre Jarmonta Davis les éteint tous, j'ai juste mis Tank les éteint tous. Et c'est passé, ça m'a remis la monétisation classique en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on ne te démonétise pas totalement, mais on catégorise ta vidéo comme un peu plus sensible, et donc tous les annonceurs ne peuvent pas se mettre sur ta vidéo. Et donc, juste en changeant le nom, donc ça veut dire qu'en ce moment, son nom, il est tricard, comme on disait chez moi à Lyon. Donc il est un peu, il faut faire attention quand tu mets Jarmonta Davis dans le titre, parce que ça ne plaît pas. Alors, donc là, on reste quand même sur des commentaires de personnes qui sont très surprises par le résultat. Alors, Yanis, il a mis un commentaire assez pertinent qui est assez long, et je vais le lire parce que ça va m'appuyer après sur la suite de mon propos. Yanis nous dit, alors, j'ai un peu du mal à lire vos pseudos maintenant, les gars, parce que YouTube a fait des petits changements, et on va en parler de ça aussi. Mais attendez, je finis ça et puis on en parle. Mais Yanis, je peux voir, c'est Yanis 2658. Voilà pourquoi je le voyais déjà prendre un KO face à Ben. Bravo à Smith pour cet incroyable KO. Je suis très heureux pour lui et que Eubank prenne son KO, ça me fait plaisir aussi, en vue de tout ce qu'il dit et fait avant ses combats. Qu'il retombe sur terre, une bonne chose est une bonne chose. Et pour sa carrière, c'est compliqué après cette défaite. Lui qui voulait des Golovkin, Canelo, etc., va devoir prendre des troisièmes couteaux. Lol. Les boxeurs cités lui mettraient des sacrés KO et c'est plus son ambition de les affronter. Il a, enfin, vu qu'il faisait pas partie de cette catégorie de boxeurs, malheureusement pour lui. Par contre, je trouvais ça pathétique que Billy Joe Saunders se soit moqué de lui en mettant des stories débiles, en montrant Eubank un jour avant le combat chez KFC avec le pull de l'enseigne sur lui, et donc les gens et Saunders l'ont ressorti pour se moquer. Mais c'est le jeu malheureusement. Et il le cherche, Chris, en faisant des choses qui peuvent lui retomber dessus après les combats. Mais Billy Joe, qu'il le fasse, s'est déplacé en sachant ce que Canelo lui a fait, lol. Il s'est tellement fait tabasser qu'il en a pris sa retraite juste après, lol. Donc, il la ramène pas, celui-là, avec sa carrière fabriquée de toutes pièces. Alors, bon, on sent qu'Yanis, il est un peu remonté, hein, contre ces youtubeurs, le lapsus, contre ces boxeurs qui se servent des réseaux à des fins de buzz, hein, clairement, c'est pour faire parler, c'est pour faire du bruit. Je peux entendre, bien sûr, le retour de Yanis, le mécontentement. C'est moi aussi des choses qui ne me plaisent pas trop, même si parfois ça nous fait un peu sourire. Bizarrement, on a tendance à plus sourire quand ça se moque des boxeurs qu'on n'aime pas, et quand ça touche les boxeurs qu'on aime, on est un petit peu plus sensible à la moquerie. Par rapport à situer le niveau de Chris Eubank Jr., par rapport à l'élite, je pense que peu de monde était dupe hein, par rapport à Chris Eubank Jr. Moi, je sais que j'en parle souvent parce que c'est un boxeur que j'aime bien, mais parce que j'aime bien un peu sa mentalité, son lifestyle, c'est un mec qui est toujours prêt, qui est prêt à l'année, il se dédie vraiment à ce sport, et puis voilà, c'est certes un fils d'eux, tu vois, son papa était un illustre boxeur, mais c'est un mec qui s'est fait dans des guerres sur le ring, tu vois, c'est pas le petit bébé protégé, tu vois, c'est vraiment, il a toujours fait de son mieux, mais après, quand tu compares à Julio César Chavez Jr., tu vois, on n'est quand même pas sur la même dynamique, tu vois. Julio César Chavez Jr., il doit avoir sensiblement le même âge que Chris Eubank Jr., hein. Il n'est pas bien plus vieux, hein. Mais moi, j'apprécie ce tempérament, cette personnalité, cette gueule, hein, qui parfois est un peu tête à claque. Donc, et puis, je ne me suis jamais leurré sur son niveau. C'était un combat équilibré, ce combat-là. C'était un combat équilibré. Mais je le décortiquerai un peu plus tard. Je voulais juste réagir par rapport au... Je pense qu'on est tous réalistes sur le niveau de Eubank. Et je pense que par rapport à son niveau, il a réussi à faire une image de marque qui est vendeuse. Donc, moi, je ne lui en veux pas par rapport à ce qu'il dit, fait... Enfin, qu'ils veulent un gros nom parce que tout le monde veut le chèque. Ne serons pas dupes. Mais je ne vous aurais jamais dit, Eubank, il veut un nom parce qu'il peut taper un nom, tu vois. Il veut un nom parce que ça ferait une affiche sympa, il a un public... Et puis ça va lui faire un chèque, voilà. Mais moi je pense que cette image, elle était bien, elle était propre à lui. Et puis, malheureusement, là, il prend un dur KO. On va revenir sur le combat, je vais un petit peu lire les autres commentaires. Alors Antoine, qui nous dit, lui et son frère ont un peu la même carrière. À moins que tu sois un crack absolu de la boxe, ils vont t'en faire baver. Donc il parle bien sûr des Smith, hein, de la famille Smith. C'est toute une famille de frangins et de familles de boxeurs. Et donc il compare Liam Smith à Callum Smith. Et donc c'est vrai que c'est des mecs qui ont fait des sacrés combats sur le ring. Alors Michael Lamori, Best 3098, qui nous dit « Même scénario possible pour Davis Garcia et pas forcément en faveur de qui tout le monde croit là aussi. » Donc par là, il veut nous dire qu'il pense que Ryan Garcia aurait ses chances contre Gervonta Davis. Je vais revenir sur le combat. Pour moi, c'est un petit peu différent au niveau des profils, parce que là, tu parles de deux jeunes boxeurs qui sont un petit peu à leur top. Ils sont en pleine ascension de leur carrière, tous les deux, alors que Chris Eubank Jr. et Liam Smith sont déjà sur une régression. Tu vois, ils sont sur la pente descendante de leur carrière, et c'était plus une belle affiche de fin. Mais il y a une surprise, c'est vrai, on va en parler. Teutates 4717 qui nous dit « J'étais pas certain que Eubank allait gagner, Smith a affronté des boxeurs plus forts que Eubank, et il est au meilleur de sa boxe en ce moment-là, la preuve. Eubank, t'es finito, ça t'apprendra à éviter les meilleurs. » Waouh, ça c'est un commentaire qui est assez dur. « Je ne voyais pas du tout Smith vainqueur, donc ça c'est Abdel Farfar. » qui nous dit « Je ne voyais pas du tout Smith vainqueur, mais il l'a bien défoncé et assez rapidement pour cette KT. Bon, ben désolé, j'y sais. Le seul bon côté à prendre à Eubank Jr., c'est les abdos. Je déconne, bien sûr. » Donc voilà, je me prends une petite pichenette. Vous savez, comme je vous le disais, que c'est un boxeur que j'aime bien. Je rigole beaucoup sur Instagram, notamment pour dire que je veux les abdos de Chris Eubank Jr., que je vais les avoir. Écoutez bien, je vais les avoir très bientôt. Et donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez un peu déconner. Ma page Instagram va être une page maintenant beaucoup plus cool. Voilà, où je partage un petit peu ce que j'ai envie de partager. Je me prendrai beaucoup moins la tête avec les réseaux secondaires. C'est une de mes décisions pour 2023. J'estime que maintenant, le travail a été fait sur les réseaux. Vous avez largement assez de pages qui vous donnent des très bonnes informations de boxe, enfin très bonnes, qui vous partagent de l'information boxe sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Donc, j'ai plus besoin de me donner à fond dans ce rôle-là. Et puis, je vais plutôt réagir aux temps forts, les choses qui m'ont marqué, vous partager un petit peu moi, mes entraînements, tout ça, voilà, quelque chose un peu plus personnel, qui me ressemblera plus et qui ne ressemblera pas à 10, 15, 20, 30 pages que tu peux déjà voir ailleurs, où je suis sûr que tu es déjà un abonné, donc je préfère t'apporter quelque chose de différent. Alors maintenant, il est temps que je vous donne un petit peu mon avis sur ce combat-là. Oui, c'est quand même une surprise, le KO que Liam Smith inflige à Chris Eubank Jr., c'est quand même une surprise, dans le sens, pardon, je bégaye beaucoup, On va prendre notre temps parce que sinon je vais galérer parce qu'on n'est encore qu'au premier sujet. C'est quand même une surprise dans le sens où Liam Smith n'est pas non plus un boxeur connu pour infliger des terribles KO. Donc voilà, c'est pas. Quand on connaît un peu Liam Smith, on ne le connaît pas comme un terrible puncher. On le connaît comme un boxeur d'expérience qui s'est toujours montré au niveau, même contre les meilleurs, et qui a toujours fait de son mieux. Voilà. Mais il n'a pas un truc où tu dis, ah ouais, moi je me rappelle de Liam Smith pour ça ou ça en particulier, son style, sa technique exceptionnelle. Voilà, non, c'est pas ça. C'est un très très bon boxeur qui, sur le circuit des Super Welter notamment. Du côté de Chris Eubank Jr., c'est un autre profil. On est plus dans un boxeur qui est connu, pour le coup, pour des beaux KO, et puis des belles guerres. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Chris Eubank Jr., c'est une sacrée mentalité. Et même si techniquement et tactiquement il est assez limité, on ne l'a jamais vu se transformer entre les combats ou pendant un combat, mais c'est un gars qui montre une volonté de combattre et qui est tenace. On ne l'avait jamais vu se faire taper comme ça, voilà, tomber comme ça, KO comme ça, on n'avait jamais vu ça du côté de Chris Eubank Jr. Donc c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est une surprise. De le voir tomber de cette manière-là, c'est une surprise. Maintenant, comme je vous disais, c'était un combat qui était plutôt équilibré sur le papier et qui pouvait présager des surprises des deux côtés. Il est temps d'analyser concrètement ce qui a fait défaut à l'un ou l'autre et ce qui a fait que Liam Smith a remporté cette victoire. Pour moi, ce combat-là, et je ne vous dis pas ça parce que j'apprécie Eubank et que je suis supporter, il fait, parce que je vais plutôt même être dur dans mes propos, et c'est pas une excuse pourquoi il a perdu ce combat-là. Pour moi, il a fait des erreurs limite de débutant dans ce combat-là. Alors, c'est pas tout n'est pas de sa faute, mais concrètement, sur le KO, il est quand même sacrément responsable. Quand tu es face à un boxeur comme Liam Smith, que tu fais, tu es au quatrième round et que c'est un combat plutôt équilibré, que t'as pas non plus vraiment pris le dessus, tu vois, t'as pas encore réussi à le toucher, à le connecter, t'as pas vraiment réussi à l'embêter, il avance et il n'est pas gêné concrètement. Donc, t'as pas nettement pris le dessus. Tu vois, t'as pas vraiment pris tes marques, ça y est, t'es dans le timing et tout. Que tu te laisses enfermer dans un coin et que pendant une série de coups, donc je les ai pas comptés, mais elle est longue la série de coups, elle est très longue, que tu ne fais rien d'autre qu'esquiver avec les pieds plantés dans le sol. C'est-à-dire, c'est que des mouvements du buste, de retrait, de désaxé, tu vois, ok, mais. Pendant ce temps-là, il n'y a aucun coup donné de la part de Chris Eubank Jr. Il n'y a aucune. Il cherche aucunement à sortir des cordes. Donc il est bloqué, il cherche aucunement à sortir des cordes. Et il n'y a aucun accrochage. Donc c'est que des esquives. Quand tu es face à un boxeur de l'expérience de Liam Smith, évidemment qu'il va te mettre une série qui va réussir au bout d'un moment à connecter. Il va réussir à toucher. Il ne va pas laisser passer cette opportunité merveilleuse que tu lui donnes de connecter. L'un des rares boxeurs, dans cette position-là, je l'ai vu faire un truc de ouf que j'avais jamais vu, c'est Tyson Fury, qui accroche un boxeur qu'il a mis dans les cordes et qui ne lui donne aucun coup rien, et lui, alors qu'il est en position de l'allumer, il l'accroche. Alors, je crois que j'ai vu que Tyson Fury faire ça, pour vous dire à quel point Tyson Fury est un boxeur surprenant, inattendu. Bon, c'était un petit tacle gratuit à Tyson Fury, mais il va prendre pour son grade celui-là dans quelques instants. Donc, pour moi, quand j'ai vu ça, le KO est superbe, hein. Vraiment, il prend c'est un uppercut qui lui fait remonter la tête où il est un peu touché. Alors, je pense qu'il a été un peu piqué déjà avant, mais surtout l'uppercut. Et après, en redescendant, là, il se prend un super crochet et il tombe vraiment, il est éteint. Donc, le KO, il est impressionnant, il est net, hein, il est beau. Mais c'est tout l'ensemble de l'action où, enfin, je suis désolé, tu te poses avec ton coach, tu re-regardes le combat. Tous les deux, ils se disent comment on a pu en arriver là, comment on a pu arriver à faire une grossière erreur comme ça. Donc ça, c'est de la faute de Chris Eubank, hein, clairement. Liam Smith, il a fait son travail. C'est un mec contre qui une erreur telle qu'elle ne pardonnera pas. Donc, pour moi, il a été à la hauteur de ce qu'on attend de son nom, Liam Smith. Et donc, il mérite amplement cette victoire. Comme Chris Eubank mérite amplement cette défaite. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose qui est plus problématique. C'est le style de Chris Eubank Jr. Est-ce que Chris Eubank Jr. n'a pas fait jusqu'ici une erreur à vouloir dénaturer son style en se rapprochant de Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. a été un illustre boxeur qui a eu un style qui a marqué les esprits, qui a marqué toute une génération et qui a été fantastique de son temps. Maintenant, vraiment, je souffle, les gars, je souffle. Parce que, autant, au début, je me disais pourquoi pas. J'étais pas contre. Je disais pourquoi pas. J'étais pas convaincu, je trouvais pas ça fabuleux. Pourquoi pas. Mais, disons que ça passait contre les boxeurs qu'il a eu jusqu'ici. Quand t'arrives face à des boxeurs d'une certaine expérience, t'auras toujours un petit temps de retard à vouloir dénaturer comme ça ton style. Ça aurait pu fonctionner. Il a eu suffisamment de combats d'adaptation. Ça aurait pu marcher. Mais c'était risqué. Et le risque, c'était ça. C'était qu'un jour, tu tombes face à un mec qui va pas se laisser avoir par ton style. Et de toute façon, c'est pas vraiment ton style propre. J'ai eu des retours hein, en privé de personnes qui m'ont dit « L'erreur, elle vient de là. Hein, » Que c'est pas son style naturel. Il a dénaturé sa boxe. Peut-être. C'était quand même une boxe où il essayait de prendre moins de coups. Il essayait d'être plus économique. Donc aussi une boxe qui s'adaptait aussi à un gars qui prend de l'âge. Parce qu'arrivé à 34 ans, 33 ans actuellement, je sais ce que c'est. Hein, voilà, j'ai 34 ans, tu fais plus la même chose, mon gars. Tu vois, ce matin, je suis allé courir à la salle, j'ai mal au genou. Et oui, c'est comme ça. Donc bon, c'est un comparatif un petit peu... Un petit peu marrant, mais ce que je veux dire, c'est que son changement de style n'était pas non plus totalement bête. Tu vois, c'était pas totalement bête, c'était pas juste... J'avais fait un titre à un moment un petit peu dur, où je disais Chris Eubank Jr. une pâle copie de Roy Jones Jr. J'avais été un petit peu dur, mais c'était pas bête, ce choix. Mais aujourd'hui, on est forcé de constater que le risque était là. C'était ça, le genre de risque. C'était d'arriver face à un mec à qui tu l'as fait pas, à qui t'es plus dans l'illusion que dans le style vraiment performant. On s'est rendu compte que son style aujourd'hui était plus une illusion de. Après, il y a les soucis perso qu'on doit rajouter. Donc cette histoire de style, moi je pense qu'il faut qu'il se remette en accord avec lui-même. Quitte à quitter Roy Jones, clairement quitter Roy Jones, retrouver une boxe qui lui parle plus. Tant pis, maintenant, il va revenir pour quelques combats, et puis ciao. Peut-être qu'il va s'arrêter là, hein. Je veux dire, personne lui en voudrait de s'arrêter là. Moi, je pense qu'on peut prendre une revanche. Il peut prendre une revanche. Et ça sera pas le même combat. Je vous dis, une revanche, ce sera pas forcément le même combat. Même avec Liam Smith un peu en confiance, qui pourrait se livrer. Donc je vous dis, le combat revanche, je donne pas Chris Eubank perdant, hein. Attention. Liam Smith sera forcément le favori, mais je vous dis, ça sera pas forcément exactement la même chose. Mais tu dois quitter Roy Jones. Aujourd'hui, je pense que tu dois quitter Roy Jones. Tu dois revenir à, j'ai envie de te dire, à tes premiers amours. À revenir à tes toits des débuts qui ont fait que tu étais un boxeur en confiance, qui faisait des guerres de ouf. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Après, il y a le côté perso que je peux pas non plus mettre de côté pour Chris Eubank Jr. Avec, sur ces dernières années... Il a perdu son frère avec son papa. C'est un peu bizarre. Il y a une sorte d'amour des amours avec un papa qui était contre le combat contre Conor Benn parce que son fils devait perdre trop de poids. D'ailleurs, on va en parler de ce combat contre Conor Benn qui aurait dû se faire. Qui était pas aussi trop pro ce combat-là. Je crois qu'il a tenu encore des propos un petit peu qui freinaient un peu son fils. Donc tout ça, c'est un contexte particulier. Et puis pour moi, Chris Eubank, d'avoir accepté le combat contre Conor Benn, cette perte de poids énorme hein, qu'il a faite quand même, limite dangereuse, hein, ce cutting limite dangereux. Derrière, il enchaîne avec une nouvelle belle perte de poids pour un combat contre pas un petit boxeur en plus, hein. Parce que la prépa d'un combat, la perte de poids et tout, c'est très usant, les gars. C'est très, très usant. Surtout quand t'as pas le combat derrière. Est-ce que cette préparation-là, il l'a pris autant au sérieux? J'ai pas vraiment l'impression. Alors oui, il a fait le régime, ça, y a pas de souci. Mais peut-être usé par le report, enfin l'annulation du dernier combat, fatigué un peu de toute l'implication médiatique qu'il y a eu derrière. Je peux pas m'enlever de la tête que peut-être que ça l'a un peu sorti de son combat là contre Liam Smith et qu'il s'est vu un peu « Oh, c'est bon, je vais le battre, Liam Smith, c'est Liam Smith, c'est pas non plus, voilà, je suis prêt, je suis en forme. » Et du coup, il a pris ça un peu par-dessus le pied, comme ce combat. Et on voit que ce chaos, c'est, pour moi, il y a une grosse erreur de débutant, donc ça expliquerait tout ça. Pour moi, tout ce que je vous dis est lié. C'est pas un élément, c'est un ensemble d'éléments qui fait que tu tombes contre un Liam Smith qui, lui, malgré ses 34 ans, avait la dalle. Il avait la dalle. Et ça, bravo à Liam Smith. Non, franchement, Liam Smith a été impressionnant. Et Chris Eubank Jr. A été l'ombre de lui-même. Voilà. Donc, l'un dans l'autre. La boxe, je vous dis souvent, hein, c'est pas seulement être le meilleur sur le papier. C'est pas seulement être le meilleur boxeur dans la vie de tous les jours. C'est être le meilleur le soir du combat. C'est ça qui fait la différence. Il faut être le meilleur ce soir-là. Faut pas que tu sois meilleur 3 mois avant, pas 6 mois après. C'est une nuit. C'est quelques heures. C'est juste quelques heures où tu dois être le meilleur. C'est tout. Et ben là, c'était clairement le cas. Passons, les amis. Peut-être la suite pour Chris Eubank ou Liam Smith. Liam Smith mériterait sa chance contre Gennady Golovkin. Ça serait beau. Franchement, ça l'a complètement relancé, cette victoire. Mais perso, j'aimerais bien une revanche. Ensuite, on va passer à Tyson Fury. Alors, je vous ai mis un post. Un petit peu marrant, hein. Oui, voilà, je me suis permis un petit truc un peu rigolo. Je vous ai partagé une photo de Tyson Fury accompagné de Natasha Jonas. Alors, ils sont très beaux, hein, tous les deux. C'était sûrement à l'occasion du combat de Chris Eubank Jr., justement. Quand je vous dis qu'ils sont très beaux, parce que c'est vrai que Tyson Fury, c'est assez rare qu'il soit bien habillé. Voilà, ça va. Il est plutôt bien habillé sur la photo. Et puis, Natasha Jonas, bon, elle est toujours élégante. Elle, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Et donc, du coup, en rigolant, j'ai mis que mardi, donc aujourd'hui, lors du podcast, on parlera de Tyson Fury qui veut boxer Natasha Jonas. Ah non, pardon, il veut boxer Francis Ngannou. Ça va, c'est presque la même chose. Non. Donc voilà, j'ai dit ça un petit peu en rigolant. Et du coup, il y a eu des commentaires en dessous. Il y a Flo Haro qui nous dit « Fury, c'est Leonardo DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux. Tous les boxeurs veulent le boxer, mais lui, il veut boxer aucun boxeur. Lol. » Alex Clay qui nous dit « Je pense que Ngannou a moins de puissance qu'elle. Il n'est pas si puissant, hein. Dommage que Fury n'ose pas faire un round en boxe, un en MMA. Là, ça serait équitable. C'est pas faux. » Et j'en prends un petit dernier, RBR5815, qui nous dit « Le fait qu'il défie Ngannou après avoir affronté White et Chisora commence à être réellement ridicule. Un clair manque de respect envers Usyk, et plus les choses avancent, moins j'ai l'impression que Usyk aura son combat. » Alors oui, donc il faut que je resitue. Là, j'ai directement attaqué dans le vif en parlant de ma petite remarque, ma petite blague. Mais à vrai dire, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc Francis Ngannou quitte l'UFC et annonce qu'il veut faire de la boxe. C'est ce que je vous ai dit en amorce de ce podcast. Suite à ça, on a fait un live assez long. Donc je vous invite à aller le voir sur Box Attitude. Je me suis régalé à faire ce live. Et d'ailleurs, vous avez vu que YouTube a un petit peu changé sa manière de fonctionner. Maintenant, quand vous allez sur une page d'une chaîne YouTube, sur l'accueil, vous avez différentes rubriques avec accueil, vidéo, en direct. Vous avez aussi short. En général, là, je suis sur ma page, les podcasts de Box Attitude, donc j'ai pas les shorts. Mais si vous allez, par exemple, sur la page Box Attitude, vous aurez short aussi. Voilà, donc vous avez accueil, vidéo, short, en direct, playlist, communauté, souscription, etc. Donc, maintenant, c'est séparé vidéo et en direct. Donc, moi, j'ai fait des vidéos en direct, j'ai fait des vidéos qu'on sort comme ça, donc qui sont préenregistrées, montées, travaillées, et après qu'on vous sort. Et puis, les directs, donc, qu'on fait directement en live, quoi. Bon, ben, en ce moment, j'aime bien faire les deux. Quand je peux le faire, je fais les deux. Aujourd'hui, ça, c'est préenregistré, mais c'est vrai que j'aime bien faire des lives. Et quand je fais des lives, par contre, je me suis dit que c'est quand même mieux de montrer ma tête. C'est quand même plus interactif. Donc au début, je cachais, et maintenant, je vais faire quand même avec ma tête les lives, même sur les podcasts de Box Attitude. Donc la version YouTube, vous aurez ma tête quand je suis en live, parce que je trouve que c'est quand même bien de pouvoir me voir, parce que ça fait partie aussi un peu du truc, de pouvoir voir comment je réagis à vos commentaires. Bref, ça, c'est un petit peu... bon, c'est vrai que c'est un petit peu pénible, ces changements de YouTube. Faut qu'on s'y habitue, en fait. Voilà, il faut qu'on s'y habitue. Ça va le faire. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai fait un live sur Box Attitude. C'était super, on a échangé. C'était vraiment super intéressant. Et puis, un très bon échange. Franchement, j'étais agréablement surpris qu'il y a eu un bon échange, parce que ça peut être clivant. Je peux comprendre que ça peut être clivant. Tu vois, Ngannou, il veut faire de la boxe et tout. Bon, encore jusqu'ici, on peut l'entendre. Ngannou, il veut se faire un billet, faire de la boxe, c'est son kiff. On peut l'entendre. Mais c'est vrai que là, la réaction de Tyson Fury, donc il fait une, il fait une petite vidéo qui a tourné de partout où il appelle Francis Ngannou à faire le combat. Il dit, vas-y, si tu veux faire de l'argent, viens, on fait le combat. Alors, il a commencé à circuler les règles et tout. Je sais pas si ça ira jusque-là, j'y crois pas trop. Tyson Fury est le champion du monde WBC en titre, les gars. Est-ce qu'il prendra le risque même de faire un combat avec des tout petits gants à ce moment-là de sa carrière? Je sais pas. S'il était retraité, j'aurais dit oui. Mais là, le risque, c'est pas qu'il perde. Hein. C'est une blessure bête. Tu sais, il a déjà eu des soucis à son œil. N'oubliez pas ce souci à cet œil. Hein. Avec des petits gants, ça peut lui faire ressauter l'œil. Ça serait ça. Le risque, il est surtout là. Hein. C'est pas de perdre. Même avec des petits gants, je vois pas Tyson Fury perdre contre Ngannou dans les règles de la boxe anglaise. Mais le risque de te faire un pet qui mette en danger ta carrière sportive, il est là. Et puis, comme l'a bien dit le commentaire, c'est fatigant. Je veux dire, pour moi, la meilleure réponse, c'est Vladimir Klitschko, ex-champion du monde, qui avait affronté d'ailleurs Tyson Fury, qui a aujourd'hui 46 ans, et qui a mis en réponse à son tweet, donc la vidéo sur Twitter, une tête de clown. Une tête de clown, pour dire t'es qu'un clown, voilà ce que t'es. Je prends même pas le temps de t'écrire un mot, t'es un clown. Et pour moi, c'est presque la meilleure réponse qu'on pouvait faire, parce que il est vrai que Tyson Fury, pour beaucoup, c'est le numéro 1 des poids lourds, c'est le meilleur, c'est le Gypsy King, il est imbattable. Et depuis qu'il a battu Wilder, qu'il a récupéré ce titre de champion, moi je vous avais déjà dit, c'est un gros problème avec Tyson Fury, c'est qu'il avait jamais défendu son titre. Je vous avais dit ça. Et c'est déjà un truc que je mettais en lumière à l'époque. Personne ne parlait de ça. Je vous disais, les gars, Tyson Fury, de son histoire, n'a jamais défendu. Il a détenu toutes les ceintures, mais il n'avait jamais défendu son titre. Première défense, match revanche contre Wilder. J'avais du mal à y croire, ils le font, ils le tabassent. Deuxième défense, encore contre Wilder. Oui, mais il voulait le combat contre Joshua, c'est vrai, mais il n'a pas fait son combat contre Joshua. Il a dû refaire un combat contre Wilder. Quatrième défense, Dillian White. Personne ne voulait de ce combat. Personne, au grand personne. Mais oui, tu comprends, c'était son challenger obligatoire depuis 10 ans. Allez, quand même, il méritait sa chance. Ok ! Derrière, il annonce sa retraite. Pff, on comprend plus rien. La WBC ne l'a jamais retiré de son titre. Hein. Jamais. Pour la WBC, il a toujours été champion. Officiellement, on nous a dit « Oui, mais on lui laisse le temps de réfléchir. C'est tellement un bon élément de l'entreprise qu'on lui laisse un petit peu de temps. Voilà. » C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais en vrai, il savait très bien que l'autre, il disait ça pour dire ça et qu'il gardait son titre. Derrière, il nous fait, je sais même plus où j'en suis là, 4e défense contre Derek Chisora. 3e combat contre Derek Chisora. Ils ont sorti Derek Chisora de nulle part. Et même ça, ils ont trouvé le moyen de nous l'expliquer. Ils ont trouvé le moyen de nous expliquer le pourquoi du comment. Et nous, débiles comme on est, on a dit « Ouais, mais oui, bah oui, bah oui, non mais c'est vrai, c'est tout à fait. Derek Chisora, oui, mais tout à fait, il vient d'être retrouvé sur un site archéologique, voilà, il était fossilisé, bah c'est normal qu'on le remette. » Non mais arrêtez les gars, arrêtez. Et bon, maintenant que soi-disant il est au top, c'est le meilleur, c'est le plus beau, il pourrait devenir le champion unifié des lourds, il fait une vidéo pour dire qu'il veut Francis Ngannou. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'on s'étonne pas qu'on se fait marcher dessus, cracher dessus par les autres disciplines de sport de combat. Parce qu'on est les plus ridicules. On est à l'image de Tyson Fury. Incompréhensible. C'est nous qui gagnons le plus d'argent en étant les plus moches à regarder aujourd'hui. Voilà, c'est la réalité. Tyson Fury, excuse-moi, mais t'es pas... Wow, tu te pignoles pas devant ces combats. Voilà, c'est un phénomène, une erreur de la nature. Mais tu te pignoles pas devant ces combats. Voilà, je suis désolé. Et puis, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. C'est à l'image de la boxe, c'est n'importe quoi. La boxe, c'est n'importe quoi à l'image de Tyson Fury. Donc oui, je suis un peu dégoûté, clairement. Voilà, qu'il fasse ce combat, qu'on s'en débarrasse. Et puis voilà, on passera à autre chose. Et puis je le regarderai comme tout le monde, parce que je suis un public boxe et qu'on est des dindons. C'est tout, à un moment donné, il faut assumer. Moi, j'assume qu'on est des dindons, hein, le public de la boxe. C'est la réalité. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Donc voilà. Je suis un peu frustré, je suis un peu énervé, je dois vous le dire. Voilà, que notre champion en titre, Tyson Fury, fasse ça. Bon, c'est pas fait, c'est pas signé encore, mais bon. Allez, passons. Je pense qu'on va se régaler avec vos commentaires sous ce petit monologue où je me lâche un peu sur Tyson Fury. Et puis le pire, c'est que cette année, il peut nous faire un combat contre Francis Ngannou, le taper, et derrière taper Usyk, devenir champion unifié, et du coup, on va finir l'année à ses genoux, hein, à genoux devant lui. Oh, Tyson Fury, oh, le Gypsy King, oh là là, oh, Gypsy King, oh, merci, merci pour le bien que tu fais à la boxe. On va finir l'année comme ça, les gars, je vous l'annonce. Hein. Bon, combat du week-end. Arthur Beterbiev qui remet ses titres WBC, IBF et WBO, si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie quand même pour ne pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Il a bien les trois ceintures parce que la WBA, la seule qu'il n'a pas, c'est celle de Dimitri Bivol. Il va affronter Anthony Yard. Anthony Yard, dont on se souvient très bien, qui avait perdu contre Kovalev juste avant que Kovalev se fasse éteindre par Canelo. J'ai mis en poste le combat du week-end. C'est moi où l'engouement est vraiment pas ouf pour cette affiche. Et donc j'ai lu un peu, on va lire un peu vos messages. Donc RBR, ben, justement, qui est de retour, qui nous met. Il est vrai que le grand public, ce n'est pas une affiche très vendeur. Que pour le grand public, ce n'est pas une affiche très vendeur. Car pas beaucoup de noms très populaires, mais personnellement, ça fait longtemps que j'attends ce combat. Depuis qu'il est annoncé, j'ai hâte. David Thomas qui nous dit « Moi je suis hyper hypé par ce combat, j'aime beaucoup Beterbiev, il donne l'impression d'être fait de marbre blanc, je prends du plaisir à regarder ses combats. » Alors là vous voyez c'est Malik mais c'est écrit « User NH6HQ3GE1K » Alors ça c'est un nom spécial. Hein. Après je crois que tous, hein, vous pouvez changer vos noms normalement sur YouTube pour mettre quelque chose de plus simple. Moi, je sais que YouTube me l'a proposé, mais moi, c'était exactement la même chose. Box Attitude, c'était Box Attitude aussi, donc j'avais pas besoin de changer quoi que ce soit. Alors, Malik nous dit, personnellement, j'attends ce combat avec impatience. Beterbiev, il fait partie des rares boxeurs. Quand tu regardes un de ses combats, tu te dis, quand est-ce que ça va arriver? Le chaos. C'est un démolisseur, Beterbiev, sans parler de ses qualités de boxe qui ne sont pas assez mises en avant. En plus, son adversaire Yard, il sait boxer, donc très belle opposition en vue. Cependant, ça va être intéressant de mesurer le star power de ces deux mecs. On va voir s'il peut remplir le stade de Wembley à eux deux. Ok, s'ils peuvent. Ok, très bon commentaire. Alors oui, les qualités aussi techniques, purement boxe de Beterbiev. Rappelez-vous de ce que je défends depuis Beterbiev Gvozdik. Depuis Beterbiev Gvozdik, je vous dis que là, on a vu que Beterbiev, c'est aussi un très bon boxeur. Très bon boxeur. Je ne vais pas lire tous les messages, les gars. Il y en a eu 20 pour ce poste. Vous savez, quand je parle de l'engouement, que je dis que c'est des combats qui plaisent à personne, tout le monde s'en fout, ça c'est un peu ma phrase, tout le monde s'en fout. Quand je dis ça, bien sûr que tout le monde ne se fout pas du combat. Mais par là, je veux dire que... Que c'est pas non plus des affiches où le grand public va forcément être à fond sur le combat, beaucoup en parler, beaucoup... retweeter, repartager, commenter les publications, remater les combats des boxeurs, tu vois, voilà, vraiment être qui-vive, repartager des photos en disant « Ouais, mon gars, il va gagner. » C'est des combats qui sont des très belles affiches sportivement, mais qui restent un peu... qui manquent de... Je sais pas, il manque le petit plus, quoi. Il manque le petit plus. Et c'est dommage, c'est vrai que là, pour le coup, Beterbiev Yard, c'est une très belle affiche. Maintenant, est-ce qu'objectivement, je pense que Yard peut faire quelque chose? J'ai été dur hein, dans le titre. Anthony Yard va-t-il se faire bouffer comme Chris Eubank Jr.? Je pense que oui. Je pense qu'il va se prendre le KO. Sauf que je pense qu'Anthony Yard va nous donner une très belle opposition. Ah, je pense qu'on tient là l'un des plus bels affrontements de cette année 2023. Et je vous le dis, j'ose le dire. Peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que Anthony Yard, il va se décomposer quand il va voir le barbu arriver face à lui et qu'il va perdre tous ses moyens. Peut-être. Mais je ne l'espère pas. J'espère que chaque boxeur va donner son meilleur. C'est comme ça qu'on fait une analyse. On espère que chaque boxeur va donner son meilleur. Et si c'est le cas, on a potentiellement déjà le combat de l'année ici. Voilà. Potentiellement, on a déjà le combat de l'année ici. Et j'espère que ça va être le cas. Et donc, je vois... Ouais, je pense que... Alors après, Yard, il peut arriver avec une nouvelle stratégie, hein, qui serait intelligent de sa part, de nous surprendre avec une stratégie. Mais j'aimerais bien qu'il y aille franchement, qu'on ait une belle opposition, et je vois Beterbiev remporter ce combat-là par KO. Alors oui, c'est un combat que j'attends, oui, c'est un combat que j'ai hâte d'être samedi soir, de me poser devant ma télé, mais je suis pas non plus à y penser tous les jours, je te dis la vérité. Par exemple, en général, je me bats toutes les vidéos qui ressortent, tu vois, de différents... promoteurs et tout, Et là, j'ai rien regardé. Alors peut-être que je vais le faire d'ici la fin de la semaine. Mais je t'avoue que cette fois-ci, j'ai rien regardé. Donc c'est la preuve que même moi, alors que j'aime bien les deux, hein, je suis pas à 100%. Donc voilà. Les gars, je finis sur ce. Je ne vais pas être trop long non plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle que vendredi, je sors une big vidéo sur... Enfin, une bonne vidéo. La vidéo travaillée de la semaine sur Box Attitude, qui sera le boxeur le plus gracieux du monde. Et puis, jeudi, je vous donne rendez-vous jeudi sur cette page, sur les podcasts de Box Attitude, pour parler du quatrième film, Rocky, donc Rocky 4. Donc voilà, on va faire l'analyse de ce film-là. Je vous remercie tous pour tous les commentaires que vous me laissez, notamment sous les débriefs des films Rocky. Je me régale à vous lire et je me régale à rebattre ces films. C'est vraiment un pur plaisir. Je vous dis à la prochaine. Fighting! N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2€ par mois, la chaîne Box Attitude. Vous pouvez aussi me faire un don sur Utip, ça m'aide énormément pour mon travail. Ciao.